Bonjour bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce de pouvoir le célébrer ce matin et être reconnaissant dans ce culte que nous voulons comme un culte de reconnaissance à la fin d'une session d'activité pour la gloire de notre Dieu. Tout à l'heure, pendant les annonces, nous dirons quelques mots de cette année qui nous a conduits tous en tant qu'Église de Dieu. Simplement qu'avant que l'été ne s'ouvre, avant qu'officiellement les grandes vacances soient ouvertes avec la date du calendrier de l'éducation nationale, j'aimerais nous encourager ce matin. Exhortation pour les vacances d'été. Un peu ce que vous devez emporter avec vous pendant les vacances d'été. Rappelez, avant d'aller plus loin, que notre foi n'est pas en pause. Même si c'est une pause d'été, la foi fait partie de notre bagage. Ce bagage qui ne nous quitte presque jamais. Que dis-je? La foi, c'est nous. La foi est en nous. La foi fait partie de notre identité. Est-ce qu'il nous viendra l'idée de laisser une partie de nous à la maison pour aller à l'été? Je ne sais pas. On part avec ce qu'on est, n'est-ce pas? On fait tout ce qu'on fait avec ce qu'on est. On n'abandonne jamais une partie de soi lorsque nous sommes des vivants. Et notre foi fait partie de notre vie. Alors ce matin, nous encourager à nous rappeler pendant cette période estivale que nous sommes des chrétiens et des chrétiennes. Et si ce n'est pas le cas, t'inviter ce matin à te tourner vers Dieu. Cette méditation prendra appui dans le texte de Romains chapitre 12. Un texte que l'apôtre Paul écrit aux Romains. Cette église de Rome qui était à cette époque la plus grande cité de la civilisation de l'époque. Et on dit, si on était arrivé jusqu'à Rome, en fait, on était arrivé aux extrémités du monde des civilisés de l'époque. Et l'apôtre Paul se trouve là. Il n'est pas en vacances, l'apôtre Paul, quand il est à Rome. En fait, il est en prison. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, il se trouve que lors de son troisième et dernier voyage missionnaire, il y avait cette conviction que quelque part, il serait arrêté. Il serait mis en prison parce qu'il avait commencé à disséminer l'évangile dans toute l'Asie mineure et qu'il avait commencé à entrevoir d'aller de l'autre côté de l'Occident pour étendre l'Évangile. Il faut se rappeler que l'ordre de mission se trouve dans Actes chapitre 1 à partir du verset 8, où le Seigneur dit clairement aux apôtres, restez à Jérusalem quand l'Esprit de Dieu viendra, cette promesse que je vous ai faite, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités du monde. Et l'apôtre Paul avait la conviction que la mission était presque achevée dans toute cette partie du bassin qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Et que c'était aussi achevé dans toute l'Asie mineure. Il avait fait avec ses équipes, l'apôtre Pierre aussi, ils avaient sillonné tous ces contrées, tous ces villages en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec force et conviction. Ça lui a valu pas mal de contestations, d'arrestations. Il va le dire dans l'une des épîtres. Il va rappeler combien de fois il a été arrêté, combien de fois il a été fouetté, combien de fois il a été laissé pour mort. Parce qu'on l'a lapidé à mort. Et à chaque fois, il disait, mais on m'a lapidé pas parce que j'ai volé, pas parce que je suis un criminel. On m'a lapidé parce que je proclame la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, si c'est que pour ça que je suis en prison, quand cela ne tient. Et donc, il est à Rome parce qu'il a demandé expressement, lorsqu'on l'a arrêté cette énième fois, il a demandé d'être jugé par l'empereur César Auguste parce qu'il était citoyen romain et qu'à un moment donné, un citoyen romain avait aussi cette opportunité, ce droit de faire appel à l'empereur. Et c'est ce qu'il a fait. Et fort de cela, le responsable militaire de l'époque et la justice de l'époque a dit « Ok, on va observer cette procédure. Donc, on va te conduire à Rome. » Donc, il a été conduit sous bonne garde à Rome. Mais c'était un périple. Rome, c'était pas à côté. Donc, il y a eu tout un voyage. Et pendant ce voyage, il n'a cessé de proclamer l'évangile. À chaque fois qu'on l'arrêtait quelque part dans une ville où, en tant que garnison romaine, les Romains étaient obligés de faire l'état de la situation du prisonnier à l'autorité de la ville, bah, c'était une occasion pour Paul de présenter l'évangile à cette autorité de la ville. Et dans le livre des Actes, lorsque Dieu lui parle, en Actes chapitre 9, Dieu lui dit, tu seras mes témoins devant les autorités. Et on se demandait, mais comment Paul allait être témoin devant les autorités? Bah, c'est pendant ce voyage-là. C'est pendant ce voyage officiel à Rome qu'il a eu cette occasion, à plusieurs reprises, d'être devant des autorités politiques et militaires et de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Et en tant que citoyen romain, on ne pouvait pas l'assigner dans une prison parce que c'était pas une condamnation, on va dire, pour des peines, pour des délits, hein, tels que le vol. C'était plutôt quelque chose qui avait de l'ordre du politique, du religieux. Donc, en fait, il était en résidence surveillée. Donc, il était libre de ses mouvements jusqu'à un certain niveau. Et c'est pendant ce temps-là qu'il écrit cette épître. Les 11 premiers chapitres sont des chapitres de doctrine où il enseigne une fois de plus la doctrine, où il dit aux Romains, voilà ce qu'il faut croire. Au premier chapitre, il dira, moi, je n'ai point honte de l'évangile. Car l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Et elle apporte le salut dans le cœur. Et c'est à partir du chapitre 12 qu'il va, de façon pratique, dire aux Romains et à nous tous aujourd'hui quelles sont les articulations pratiques que doit prendre la foi d'un chrétien. Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a des comportements et des conduites qui ne sont pas profitables, qui ne conviennent pas aux chrétiens, à celui qui confesse que Christ est rentré dans sa vie. Des comportements et des positionnements et des valeurs qui font mal, qui en effet ont un effet néfaste. Même des fois, s'ils ne sont pas expressément interdits. Alors l'apôtre Paul encourage les croyants à laisser leur intelligence. Parfois, on dit que la foi est quelque chose qui est désincarné de notre intelligence. Ce n'est pas vrai. Hein? On dit souvent que la foi, c'est comme sauter d'un immeuble sans savoir où on tombe. Ce n'est pas vrai du tout. La foi, ce n'est pas un saut dans le vide, non. On dit que la foi vient de ce que on croit, et ce qu'on croit vient de la parole du Christ. Donc la foi, son socle, c'est la Bible. C'est elle qui est la base de notre foi, n'est-ce pas? Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues. Et il demande donc que nous soyons vigilants, que nous ne soyons pas conformes à ce monde. Il ne s'agit pas de couper les relations sociales. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Parce que le monde est le monde créé par Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils. Donc, le monde est création de Dieu. Même si le péché a touché le monde en tant que cosmos, c'est-à-dire le monde créé, appartient toujours à Dieu. Quand cela ne déplaise, le monde appartient à Dieu. C'est son monde à lui. Le monde sur lequel domine le malin, c'est plutôt ce système du monde qui ne veut plus de Dieu. C'est de celui-là qu'il s'agit. Mais pendant l'été, quand vous voyagez, la beauté de la nature appartient à Dieu. On est émerveillé par l'intelligence des hommes qui sont capables de créer des villes incroyables quand on visite, d'avoir ce génie de l'intelligence. Dans les nuits des villes, vous voyez comment ces villes sont éclairées avec une intelligence de l'architecte, de l'urbanisme, tout ça c'est Dieu qui donne. La Bible dit, n'oubliez pas, car Dieu a créé l'être humain à son image. L'intelligence de l'homme vient de Dieu, qu'il le sache ou pas. Ça n'a pas d'incidence. Si quelqu'un dit Dieu n'existe pas, ça n'engage que lui. De toutes les façons, Dieu existe. Ben oui. Donc que quelqu'un se glorifie de son intelligence d'avoir créé quelque chose, ça n'engage que lui, parce que cette intelligence lui est donnée par Dieu. Celui que nous appelons notre Dieu est le Dieu de la création. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, vient du Père des Lumières. C'est lui qui fait ce don aux hommes. Donc soyons reconnaissants de toute la beauté que nous voyons dans la création. Jouissons de cette beauté-là. Elle est le fruit de notre Dieu. C'est pour cela que les chrétiens sont encouragés à laisser leur intelligence au service de l'humanité aussi. Tant de chrétiens ont été des inventeurs. Ils ont innové des choses, il faut le savoir. Il faut le savoir. Les chrétiens ont lutté pour le bien-être dans l'humanité, il faut le savoir. Ceux qui ont été acteurs pour l'abolition de quelque chose de très sombre qu'on appelle l'esclavage, ce sont des chrétiens. Hier, nous avons eu la démonstration avec cette conférence de cet orateur chrétien engagé dans son église, mais engagé dans sa ville. Il est maire de sa commune. Il sert sa commune avec son éthique chrétienne. Et nous avons vu que son éthique chrétienne, bah, elle est bien rigoureuse. Et dit, tout le monde sait que je suis chrétien dans ma commune. Mais je ne le clame pas sur tous les toits, c'est dans mes valeurs. Et j'aime tous les citoyens de ma vie. Peu importe leur religion. Mais moi, je suis chrétien. Et c'est avec ces valeurs, aime ton prochain comme toi-même, que je sers ma ville. C'est incroyable. Certes, nous ne sommes pas tous appelés à être maires. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit que chacun de nous réalise que le monde créé appartient à Dieu. Donc il ne s'agit pas de nous désolidariser de la création en tant que telle. Nous sommes de la création. Nous faisons partie de la création de Dieu. Donc cet été, profitez de cette création-là en fonction des moyens que Dieu vous donne. C'est important aussi. Ne revenez pas de l'été en étant, vous m'avez compris, soyez sages. Soyez sages avec les portefeuilles. Soyez sages. Car après l'été, la vie continue aussi. On a de nombreuses recommandations. Ce qui est remis en cause ici, ne vous conformez pas au monde présent, c'est la structure. C'est la mentalité. C'est comment le monde se façonne souvent sans Dieu. On dit une chose et on dit son contraire. Et on est confus. Moi, je suis toujours embêté, je préfère le dire. On dit dans cette société, respecter la femme, et la société ne fait que la vilipender chaque jour. Comment on nous demande de respecter la femme et sur les bus de notre cité, nous sommes obligés de voir cette image de la femme? C'est pas possible, c'est un message contradictoire. On la chosifie volontairement, massivement, et on dit respecter la femme. Bah, attendez. Il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il dit ne vous conformez pas au monde, c'est de cela qu'il s'agit. Ce message confus de notre société qui veut paraître progressiste mais qui en même temps chosifie l'être humain. Je suis désolé de le dire, mais c'est le cas des fois. C'est le cas des fois. C'est de cela qu'il s'agit. Ne vous conformez pas au monde présent. L'une des artistes qui a déclamé un poème hier disait « Le monde est un piège ». Et dans son poème, en articulant le monde est un piège, elle parlait pas de la création, elle parlait du système de ce monde qui subtilement parfois nous présente des choses qui semblent être bien, mais une fois qu'il a pris ton bras, ta main du moins, ton bras aussi il a pris, avant que tu réalises tout ton corps est avec lui. Parce que le monde est malin. Parce que le malin c'est son nom, c'est-à-dire qu'il est ingénieux. Il va pas venir t'effrayer du coup parce qu'il sait que tu vas être sur tes gardes. Il vient subtilement, il vient insidieusement, il vient semer le doute, la confusion, l'à peu près. N'oubliez pas qu'au départ avec Ève, c'est l'Éternel a-t-il réellement dit, il a semé le doute. Ne vous conformez pas à ce monde qui sème le doute. Il faut veiller avec légèreté, veiller avec calme. Il ne s'agit pas d'être sur ses gardes tout le temps, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais d'être des vrais chrétiens, que nos valeurs soient là. Comme certains, dans cette société, qui clament à tout va leurs valeurs et qui n'ont plus honte, même s'ils sont minoritaires, qui le disent à tout le monde et qu'on n'est pas d'accord avec eux, bah, vous êtes contre eux. C'est pas vrai. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sans être contre lui. La vie le montre tous les jours. Chacun de nous fait des choix. Est-ce pour autant que nous avons des mitraillettes dans la ville pour tirer sur tout le monde? Mais non. Donc on peut ne pas être d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on est contre les gens. Mais simplement que nous sommes ce que nous sommes avec les valeurs que Dieu nous donne. Ce matin, on a un problème avec la technique. Voilà, ça s'affiche, ça se désaffiche, mais ce n'est pas grave. Comme Jésus, le chrétien, est présent dans le monde, toutefois, il doit faire des choix orientés par la Bible. Bien-aimé, n'oubliez pas d'emporter ça pendant les vacances. Ouais, on dit c'est dans le smartphone. Le smartphone ne suffit pas, les amis. Ayez toujours votre Bible papier, je vous en supplie. Il y en a de petite taille aussi, vous pouvez les avoir. Et ça rentre dans un sac de femme, c'est tout petit aussi. Et même ça rentre dans les bananes des petits, des jeunes gens. Vous avez des petites bananes, bah, il y a des Bibles à cette hauteur-là, cette taille-là aussi. Moi, je fais l'effort d'avoir des Bibles à toutes les tailles pour tous les sacs que je peux emporter. C'est important. Je me dis, je ne sais jamais. Vous savez, je viens d'un pays en guerre. La guerre, quand ça se déclenche, tu ne sais pas où tu seras en sécurité. Je me suis toujours dit, où que je sois, il faut que j'aie la Bible avec moi, car c'est la parole de Dieu. Donc, j'emporte toujours un exemplaire de la Bible dans tous les voyages. Tous les voyages. Vous savez, le smartphone, il est bien. Hein? Mais quand il est éteint, et que là, qu'il n'y a pas de batterie autour, on est embêté, on est paniqué, mon smartphone, il est éteint, j'ai plus de batterie. Où est la station d'à côté? Je vais essayer de charger. Et encore, si elle est déchargée, mais s'il est en rade totale, comme ça peut arriver l'été, peut glisser quelque part, tomber dans de l'eau. Comme l'été, il fait chaud et qu'on est au bord de l'eau et qu'on a toujours le smartphone à portée de main, ça peut glisser. Et là, catastrophe, il n'y a plus de smartphone. Et tu fais quoi après pour méditer la parole de Dieu? Un exemplaire biblique avec vous. Emportez-le. Le chrétien est appelé à se distinguer positivement en faisant un choix de vie qui est conforme aux valeurs de la Bible. Ce sont des valeurs. Et pendant l'été, les valeurs peuvent être mises à mal par rapport à Que Dieu nous aide à maintenir nos valeurs. Le chrétien fait le choix de refuser ce qui est dans le monde, ce qui n'est pas conforme aux enseignements de la Bible. Pendant l'été, on peut être dans des endroits qui ne sont pas conformes aux enseignements de la Bible parce qu'on est avec la famille. Mais même là, il faut être soi-même, gentiment, même soi-même. Des fois, mes cousins, lorsque je suis avec eux pendant ces temps d'été, ils essaient un peu de faire des choses et puis après ils disent, de toutes les façons, ça, il est pasteur, donc on ne va pas y arriver. Je dis, vous avez tout à fait raison. Même si je ne suis pas pasteur, je suis chrétien et vous savez, je vous aime, c'est pour ça que je suis avec vous. Mais il y a des choses que je ne fais plus. Et je ne dis pas ça pour vous, mais moi, ça fait 2 décennies que je suis avec le Seigneur, il ne m'a pas déçu. Il ne m'a pas déçu et je ne vois pas pourquoi je changerai de Seigneur. Vous savez, le Seigneur, ce n'est pas juste celui qui nous a sauvés, hein, c'est celui qui est le maître de notre vie. C'est ça un Seigneur. Mais un Seigneur qui est bon, son cœur est bon, n'est-ce pas? Le chrétien fait l'effort de se souvenir que les mauvais choix de vie sont en opposition à Dieu. Et n'a-t-il que des inconvénients? Il faut s'en convaincre, le péché n'a que des inconvénients, les frères et sœurs. Le péché n'a que des inconvénients. Le péché mignon, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de péché mignon. Parce qu'un péché mignon, il te tue la foi. Il te tue la foi. Il faut le savoir. Il te tue la foi. Et pendant cet été, soyez vigilants. Ne vous compromettez pas. Ça ne vaut pas la peine. Pour quelques jours, ça ne vaut pas la peine. Pour quelques mois, ça vaut. Pour quelques jours, ça ne vaut pas la peine de vous compromettre. Restez tel que vous êtes. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Veillez sur vous-même. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est le point 2. Donc il dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés. Hein? Et on dit qu'en grec, le mot transformé, on le tire de cette expression qui parle de cette transformation de la chenille en papillon. Entre la chenille et le papillon, c'est la nuit et le jour. On ne sait pas, c'est un mystère de la biologie incroyable. Cette petite chose un peu dégueulasse, lune, voilà, cette chenille qui à un moment donné s'enferme dans un cocon de toile. Et qui mature dans ce cocon de toile, ce qu'on appelle la métanoïe, et qui en sort un papillon avec des ailes et des motifs incroyablement beaux. Waouh! C'est ça la métamorphose. Dieu est incroyable. Il a insemé dans la création des principes qui, quand ils se manifestent, on est émerveillé. Chenille qui devient un papillon avec cette beauté-là. Et il y a un artiste que j'aime beaucoup qui a fait un poème, un rap dessus qui dit « Aujourd'hui peut-être tu es larve, mais un jour tu seras papillon. » Avec des ailes bien étendues, avec des motifs beaux. Même si la vie du papillon est courte, profite de cette dureté, cette petitesse, ce temps court de ta vie pour vivre cette beauté que Dieu a mis en toi. Je te remercie car je suis une créature veilleuse. Amen. Donc il dit soyons transformés, soyons changés, que notre mentalité de chrétien ne cesse de se transformer. Ça veut dire que c'est un processus continuel. Lorsque nous sommes rentrés dans cette foi avec Jésus, laissons Dieu par sa grâce nous aider à changer nos logiciels. C'est de cela qu'il s'agit. Notre logiciel de compréhension de la vie de chaque jour. Et c'est ce qu'il veut faire. Et je vais citer un auteur. Vas-y encore. Ça va s'afficher peut-être. Il nous a accompagné toute l'année. Le jour du culte, le matériel bug un peu. Mais c'est pas grave. Il s'appelle John Wheelwright. Et il écrit, notre pensée joue un rôle extrêmement important dans notre vie chrétienne. C'est à ce niveau que se déroulent quelques-unes de nos batailles spirituelles les plus ardues. Mais le défi d'amener toute pensée captive au Christ est particulièrement difficile à notre époque. Notre intelligence est bombardée de messages contradictoires que nous lancent les différents médias qui nous entourent. La télévision, la radio, le cinéma, l'industrie, la musique, les revues, les arts plastiques. Parfois, les messages reçus enrichissent et réconfortent nos convictions chrétiennes. Et à d'autres occasions, les messages érodent nos systèmes de valeurs morales et sabotent notre vitalité spirituelle. Il arrive parfois que nous ne remarquions leurs effets subtils, mais dévastateurs sur votre pensée qu'après plusieurs mois, voire des années. Aujourd'hui, plus que jamais, le besoin pour les chrétiens de renouveler leur intelligence par la prière, la confession, la méditation de la parole de Dieu et la participation à l'église locale est d'une suprême importance. Toutes ces choses nous permettent de renouveler notre intelligence. La prière, la confession, c'est-à-dire l'idée que nous avons besoin constamment de demander pardon à Dieu pour nos pensées, nos paroles et nos comportements. Nous avons besoin de demander régulièrement à Dieu pardon pour ça, parce que nous sommes des humains et nous vivons dans un monde pécheur. La méditation de la parole de Dieu, méditer la parole assez régulièrement, même pendant l'été. Participer à la vie de l'Église, où que vous soyez invité, bien-aimé, où que vous soyez invité, bien-aimé, cherchez l'Église le dimanche, allez à l'Église, dis ouais, mais c'est le moment où on peut aussi ne pas se réveiller un dimanche matin, cherche un culte de l'après-midi alors, il y en a maintenant, va l'après-midi à l'Église, ce que je ne conseille pas beaucoup, mais c'est l'été. Fais un culte personnel. Si là où tu es, il n'y a pas de possibilité, fais un culte personnel. Et l'église de Créteil reste ouverte. Elle sera ouverte. On ne va pas diffuser les cultes pendant l'été parce que l'équipe va se reposer. C'est vrai. Mais d'autres églises que nous recommandons ont les équipes qui tournent assez bien et qui resteront aussi des cultes intéressants sur la toile. En ce moment-là, profite de ces cultes-là. On n'est pas dans l'exclusivité de dire c'est que Créteil. Non, Créteil fait partie d'une grande famille d'églises évangéliques en France et dans le monde. Simplement, soyez vigilants. Sur la toile, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui dit église n'est pas église. Tout ce qui prêche l'évangile n'est pas le vrai évangile. Attention, attention, attention. Tous les beaux orateurs ne sont pas des prédicateurs. Vous savez, un beau orateur, il y en a dans le monde politique aussi, hein. Quand il parle, tu dis, waouh, je signe demain dans son parti. Parce qu'il parle trop bien. Et dans le milieu évangélique et protestant, il y en a qui parlent bien, mais qui ne sont pas bibliquement vrais. Je suis désolé de le dire. Que Dieu nous aide. Et enfin, pour terminer ce dernier texte, que nous verrons en deux parties, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, cette fois-ci l'apôtre Paul aux Corinthiens, Corinthe aussi, qui est une ville réputée de cette époque de l'histoire, avec tellement de choses dans cette ville. Et il dira, 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 12, « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. » Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Ignorez-vous, verset 15, que votre corps, que vos corps sont les membres de Christ? Vais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Honore donc Dieu, honorez donc Dieu dans votre corps. C'est une invitation, bien-aimée, là aussi à être vigilant, à être des chrétiens. Nous avons une conduite, nous avons des valeurs, nous avons une dignité. Notre corps, Dieu nous l'a donné, il nous va être fier de ce corps, peu importe la taille qu'elle a, peu importe la forme qu'il a. Je suis désolé, la société a formé des stéréotypes en disant c'est ça le vrai corps. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Sauf pour des raisons de santé, bien-aimés, chacun veille sur son corps autant qu'il peut. Mais les stéréotypes de la société qui dit si tu es la plus belle, c'est comme ça qu'il faut être, franchement, ne vous laissez pas berner par ça. C'est pas vrai du tout. Tu es une belle femme, tu es un bel homme. Dieu t'a créé comme une créature si merveilleuse. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes de continents différents, nous sommes des régions différentes, et en fonction de ça, nos vies, nos biologies, nos... Voilà, bref. Mais ton corps, quand tu es chrétien, Dieu te le rend digne. Tu es un homme digne, tu es une femme digne, et ton corps doit faire partie de cette dignité humaine que Dieu te donne. Alors, veille sur lui. Veille sur lui. Le monde a laissé croire que le corps, finalement, c'est un objet. Un objet de séduction, un objet qu'on peut utiliser pour faire ce qu'on veut. C'est pas vrai. Le corps fait partie de nous. Mon corps, c'est moi. Je suis digne, je suis fier, je suis Serge Oulaï. Tu es digne, tu es fier, tu es X, tu es Y. C'est ça, ton être humain. Tu es un être humain créé à l'image de ton Dieu. Veille sur ton corps. Quand on dit ça, on parle de toutes les addictions. Toutes les addictions, toutes les addictions. Toutes les addictions sont néfastes. J'étais dans une conférence dans ma ville avec la mairie qui nous avait invités. Moi, je suis parent élu de ma ville au niveau des parents d'élèves. Et puis, on était à cette conférence et puis l'un des membres de l'équipe, je suis toujours étonné. Il avait sa cigarette, il avait son paquet de cigarettes là. Vous savez, sur le paquet de cigarettes, c'est écrit bien en noir, fumé, tue. Et c'était bien visible. Et j'avais envie de dire, mais monsieur, il y a quelque chose qui va pas là. C'est marqué la fumeture. Je ne condamne pas ceux qui fument. Ils ont le droit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il me semble que ce genre d'addiction, elles ne sont pas constructives. Parce qu'il n'y a aucun aliment nutritif dans la cigarette. C'est connu. Ce que je dis là, c'est dit par Santé publique France. Au point où on fait des campagnes de désintoxication pour que tu arrêtes de... Si ça te prend l'été de goûter à ça, c'est un jeu dangereux. Quelqu'un a dit, un missionnaire américain a dit, tu sais fumer c'est quoi? Il dit, c'est comme si tu ouvrais tes narines sur le pot d'échappement d'une voiture. Et tu dis, allume la voiture, accélère. Et que tu inhales toute la fumée qui sort du pot d'échappement. Il dit, c'est ça fumer. Je dis, waouh, quelle image. Mais c'est vrai, il a raison. C'est ça. Tu prends tout ça. Pourquoi en fait? Pour quelques sensations, mais après. Et tous les fumeurs vous diront, quand tu leur dis, mais tu sais, c'est pourtant ça. Ils disent, c'est vrai, je dois arrêter. Parce qu'ils sont conscients eux-mêmes. Bref, j'ai parlé que de ça, mais je pourrais parler de bien d'autres choses. Notre corps est une grâce. Vous savez, c'est quand on est malade qu'on voit la nécessité du corps. Quand on est malade, là, on se dit, waouh, j'étais bien quand j'étais en bonne santé. Hein. Quand on est en bonne santé, il faut prendre soin de son corps. parce qu'il appartient à Dieu. En tout cas, nous, chrétiens, notre corps appartient à Dieu. Dieu veut qu'on en prenne soin parce qu'il nous l'a confié. Amen. Et puis, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. La Bible dit que Christ vous a libéré pour la vraie liberté. Maintenant, tu as été libéré et tu vas encore te mettre sous des esclavages, sous le poids de quelque chose, c'est pas sage. Il dit maintenant que tu es chrétien, sois sage. Il y a un combat. Je parle pas. Ce que je dis là, je le dis pas avec facilité. Je suis assez libre de parler de cet aspect de la cigarette parce que j'ai fumé, moi, pendant bien longtemps. Ah. Et dans cette époque-là, je fumais des cigarettes dures, sans filtre. Ça n'existe pas encore, mais nous, on fumait la gitane. La gitane, c'était une cigarette sans filtre. Il n'y a pas de filtre. La nicotine, tu la prends en plein. Et c'est la fumée bleue, comme c'est une fumée bleue. Il semble que la fumée bleue, elle est toxique, en fait. On fumait ça. Mais on avait un plaisir, puisqu'il y a une addiction au cervelet. C'est des sensations de plaisir, en fait. Mais derrière, on savait bien. On était jeunes, mais on savait toutes les conséquences plus tard. Et même quand on a vu un de nos copains en train de mourir presque, il a été sauvé de justesse. Et il a perdu un poumon. Heureusement que ce jour-là, une de nos copines est passée le voir. Il était agonisant. En train de presque mourir, elle a eu la vigilance d'appeler les pompiers de justesse. Il a eu l'ablation du poumon jusqu'à aujourd'hui. Ça nous a fait peur sur le moment, mais on n'a pas arrêté pour autant. Et moi, c'est quand le Seigneur est rentré dans ma vie qui m'a donné la force d'arrêter. Donc, je ne parle pas avec légèreté. Je sais que les addictions ne sont pas simples. Et en parler comme ça, c'est comme si on se moquait de ceux qui ont des addictions. Non, mais c'est une invitation. C'est un encouragement à croire que Christ est capable de te donner la force. Même si ce n'est pas encore ça, de dire, j'abandonne pas. Le Seigneur m'aidera parce que c'est pour ma santé. C'est pour mon bien. C'est pour le bien de ceux que j'aime. Vous savez, quand vous êtes dans une famille, quand vous êtes marié, pensez aussi à celle ou celui avec qui vous êtes. Parce que si vous avez dit quelque chose, ce n'est pas qu'à vous seul, c'est à l'autre aussi que ça arrive. Et on dit que certaines addictions diminuent notre espérance de vie. Et si je suis marié et que ça diminue mon espérance de vie, et ma femme alors, et mon époux alors, je vais la laisser seule continuer le chemin? Mais non. Je dois penser à ça. Amen. Que Dieu nous aide. Soyez vigilants. Une addiction, elle commence, comme je l'ai dit, avec l'ennemi, elle commence insidieusement. Je parlais de la cigarette, je parle aussi de l'alcool. L'été, c'est l'apéro. Et l'apéro, si bon. Et les apéros sont faits avec des alcools doux. Et ça passe bien au palais. Et quand c'est frais, encore c'est mieux. Et puis un verre. Et puis deux verres. Et puis, on peut prendre le volant pour rentrer. Non, les bien-aimés, soyez sages. Soyez sages. Soyez sages. Soyez sages. Soyez sages. Soyez sages. Savez, j'aime ces émissions qui luttent contre l'alcoolisme. En fait, ils démontrent que quand on est sous, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, notre vision, elle change. Mais on n'est pas conscient. Et ils font les tests, ils font le test. Donc, ils ont des lunettes spéciales et qu'ils ont adaptées à l'alcoolémie. Ils mettent sur les yeux de quelqu'un comme les lunettes 3D et puis ils disent à la personne marche. En fait, les distances sont faussées. Et quand vous voyez la personne marcher, en fait, elle se prend les cônes. Elle pense que le cône, il est loin, mais il est déjà à côté. Et il se prend le cône dans le pied. Il dit, mais je pensais que c'est là-bas. Il dit, c'est exactement ce que l'alcool fait. Exactement. Les distances sont faussées, en fait. Et ton temps de réaction est faussé. Donc le temps où toi tu crois que tu réagis normalement, en fait c'est faux. Il y a un décalage. Attention à ces addictions-là. Je termine avec l'addiction du sexe. Le sexe, ce n'est pas un jeu, les amis. C'est un don de Dieu pour le mariage. Soyez fiers, soyez dignes, protégez-vous. Ne vous laissez pas vilipender par l'image de ce monde qui donne sexe à tout va. On a chosifié ce que Dieu a donné comme beau. Que Dieu nous aide. Hier c'était comme ça. Avant-hier, j'étais dans le métro. Il y a des scènes incroyables dans notre vie. Je vois deux jeunes qui s'embrassent. Je dis, waouh, quel amour. Et je suis à côté. Et en fait, dès après avoir embrassé sa copine, il est en train de l'engueuler, en fait. Je dis, mais j'ai rien compris en fait. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Voilà l'image de notre monde. Faisons les choses selon Dieu, avec la parole de Dieu. Faisons le bien selon la parole de Dieu, bien-aimé. Et puis je termine. Va à la dernière slide, tout à fait à la dernière. Être présent en vivant les valeurs de la Bible. C'est de ça qu'il s'agit. Être présent en vivant les valeurs de la Bible. Voilà ce que nous sommes en tant que chrétiens. La Bible ne nous propose pas une vie d'obligation. C'est pas des commandements qui sont là pour nous taper dessus. C'est lourd. Non, c'est la vie, ça. C'est un projet de vie, un beau projet de vie pour nous. Il faut rappeler que si le Christ a vécu comme un homme, c'est qu'il a décidé d'assumer ses valeurs. Il nous fait confiance pour que nous les assumions aussi à notre tour. Quand Dieu est venu comme un homme, c'est pour nous montrer que sa parole, elle peut être vivée. Elle peut être vécue. Parce que Christ l'a vécu. Bébé, jusqu'à 33 ans, il a vécu totalement la parole de Dieu. Pour dire, les amis, c'est possible. C'est pour ça qu'on appelle notre frère aîné. C'est notre grand frère. Il nous a montré le chemin. Il dit, c'est possible parce que moi, je vous ai montré le chemin. Même dans les pires des conditions, je suis resté ce que je suis. Et vous pouvez aussi. Et en plus, je vous ai donné la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint, pour qu'il vous fortifie, même quand c'est Dieu. Amen. En assumant les valeurs, nous vivons normalement et notre présent peut permettre à certains de changer de regard sur la vie. L'été, c'est l'occasion aussi de témoigner de notre foi dans notre famille, dans nos amitiés. C'est pour ça, il n'est pas incongru qu'un chrétien parte en vacances d'été avec ses collègues, avec ses amis qui ne sont pas chrétiens. Non, ce n'est pas incongru. Au contraire, ça peut être une bonne opportunité. Mais veillez sur vos valeurs. Refuser de sortir là où c'est pas bien. Ah bah tu sors pas? Non, je sors pas ce soir. Non, je vais pas là-bas moi. Allez-y. Ah ouais, oui, je vais pas. C'est pas négociable. Ah par contre on va manger? Bah oui, bien sûr, on va manger. Oui, je suis là. Ah on va faire le tour de la ville? Bah bien sûr. Mais là, j'y vais pas. N'hésitez pas, c'est comme ça. Et c'est l'occasion de témoigner. Et c'est là qu'on est en proximité avec des amis pendant 3-4 jours et ça va les titiller. Mais je ne savais pas que tu ne faisais pas ça, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Ah, la belle question. Bah, tu as un peu de temps pour moi. Bah, écoute, viens, on prend un petit verre et puis on discute. Et tu racontes ton témoignage à la maison. Oh, tu ne sais pas ce que tu vas en faire. Amen. Nous sommes là pour témoigner. Et dans nos familles, l'été aussi, on est dans la famille. Et dans la famille, on a l'occasion, pour ceux de nos familles qui ne sont pas chrétiens, de témoigner. Rappelons-nous aussi que le monde dans lequel nous vivons est trop souvent en crise et désespérant. Mais nous pouvons apporter un peu d'espoir. Nous pouvons porter les valeurs de la parole de vie, car la parole de Dieu est une parole de l'espérance. Tout n'est pas fini. On peut témoigner de l'amour de Dieu, de la force que Dieu donne, témoigner que Dieu est fidèle et que même dans les situations difficiles, il est là, il ne nous lâche pas, il nous conduit. Quand l'horizon peut se fermer, non, ce n'est pas vrai. L'horizon reste toujours ouvert avec Dieu, toujours ouvert. Il est fidèle. N'oublions pas que malgré que le monde a rejeté et crucifié Christ, Christ fait quoi? Il aime ce monde-là. Il ne cesse de l'aimer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas rejeté son monde. Il aime. Nous sommes invités à aimer notre prochain, à aimer ce monde qui est création de Dieu, mais avec les valeurs que Dieu nous a données. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Et que sa grâce continue de lui sur vos vies et sur nos vies. Au nom de Jésus.